Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monseigneur, chers pères et frères, chers séminaristes, chers fidèles, ce soir nous commémorons l'institution de la Sainte Eucharistie. En cette soirée mémorable où notre Seigneur a célébré la première messe sur cette terre. Et nous commémorons aussi l'institution du sacerdoce, instituée par notre Seigneur pour que le sacrement de l'Eucharistie puisse continuer à être célébré jusqu'à la fin du monde. Dans le déroulement de cette soirée, tel que nous le rapportent les évangélistes, on retrouve tous les caractères de la messe catholique. D'abord le cadre. Une chambre haute garnie de divans, dit saint Marc, ce qui, dans le langage de l'époque, signifie une pièce de réception à l'étage. Donc la première messe a eu lieu dans un local digne et orné. Et puis l'on retrouve aussi les parties principales de la messe. Notre Seigneur qui lave les pieds de ses apôtres, ce qui figure la nécessité de se préparer à la messe et à la Sainte Communion par la purification de l'âme. Saint Paul vient de nous le rappeler dans l'Épître. Celui qui mange et boit indignement mange et boit sa propre condamnation. Nous avons ensuite le cœur de la messe, la consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour beaucoup en vue de la rémission des péchés. Et en ajoutant fait ceci en mémoire de moi, notre Seigneur ordonnait ses apôtres prêtres. Il ne leur aurait pas dit « faites ceci » s'il ne leur avait pas conféré en même temps le pouvoir de le faire. Ensuite, notre Seigneur communie ses apôtres. Et enfin a lieu ce long discours après la scène, qui est une magnifique action de grâce après la messe, et que vous pourriez méditer ce soir, par exemple, devant le reposoir. Étant au plus intime de l'âme de ses apôtres par la Sainte Communion, notre Seigneur leur communique maintenant les secrets de son cœur, le plan d'amour de la Sainte Trinité sur les hommes. Notez bien quel moment notre Seigneur a choisi pour instituer ce sacrement de l'Eucharistie. Cela aurait pu être lors de la multiplication des pains qui figurait ce sacrement, qui en était une annonce. Non, notre Seigneur a voulu que ce fût la veille de sa passion, « Pridie quam pater etur », afin de montrer le lien essentiel qui existe entre l'Eucharistie et la croix, entre la messe et le calvaire. En ce jeudi saint au soir, notre Seigneur donna en effet à la consécration séparée du pain et du vin le pouvoir de représenter la séparation de son corps et de son sang sur la croix. Et cette représentation de ce qui s'est passé sur le calvaire nous applique les mérites du sacrifice de notre Seigneur pour le rachat de nos péchés. Et cela permet de bien comprendre pourquoi, à la dernière scène, il y a eu une messe. Pourquoi ce qui s'est passé était une messe? Parce qu'on pourrait se poser les questions. Comment cela put-il être une messe puisque le sacrifice de la croix n'avait pas encore eu lieu? Comment cette messe put-elle réparer les péchés puisque le sang de notre Seigneur n'avait pas encore été versé? Mais justement, puisque la messe représente la séparation du corps et du sang de notre Seigneur sur la croix, notre Seigneur pouvait bien représenter cela à l'avance, la veille. Et c'est ce qui s'est passé le jeudi saint au soir, et c'est pour cela qu'à la Sainte Seine, il y a eu une vraie messe. Retenons donc bien Le sacrifice de la messe et le sacrifice du calvaire sont un seul et même sacrifice. Il y a le même prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre qui est à l'autel n'agit qu'en la personne du Christ. Il ne fait que prêter sa voix à notre Seigneur, mais c'est notre Seigneur qui célèbre. À la messe, c'est la même victime qu'au calvaire, notre Seigneur Jésus-Christ, et ce sont les mêmes effets, la réparation de nos péchés. La seule différence entre le calvaire et la messe, c'est qu'au calvaire, le sacrifice a été sanglant, et qu'à la messe, le sacrifice est non sanglant. À la messe, le sacrifice du calvaire est représenté sacramentellement sur l'autel pour nous en apporter les fruits. Luther, dans sa révolte, a détruit cela. Il a séparé l'Eucharistie et le sacrifice. Pour lui, la messe, c'est la simple commémoration de la dernière scène. Et la dernière scène n'était pas un sacrifice, c'était un simple repas où notre Seigneur s'est donné en nourriture. Et encore, pour Luther, le pain reste du pain. Notre Seigneur n'y est présent que par une sorte de présence spirituelle. Alors, c'est la destruction totale du sacrifice de l'Eucharistie. Pour Luther, la messe n'est qu'une liturgie de la parole et une communion. Et ce n'est pas ce sacrifice expiatoire qui renouvelle et qui nous applique les fruits du sacrifice du calvaire. Et ces caractères de la scène protestante se retrouvent malheureusement dans la nouvelle messe de Paul VI. Et ce n'est pas étonnant lorsqu'on sait qu'elle a été fabriquée avec 6 pasteurs protestants et dans un but bien précis qui a été explicité par l'artisan de cette nouvelle messe, le père Bunigny, disant que maintenant il fallait changer la liturgie de telle sorte que les protestants, s'ils viennent assister à nos offices, ils ne trouvent dans notre liturgie, dit-il, pas même l'ombre d'un risque d'achoppement ou de déplaisir. Alors le résultat, c'est que les textes de la nouvelle messe ne parlent plus de sacrifice pour le rachat des péchés. Mais comme les protestants, on parle de liturgie de la parole, de récit de la scène, de partage du pain. C'est une Eucharistie sans croix, qui n'est pas l'Eucharistie telle que notre Seigneur l'a voulu. Bien sûr, à l'opposé de la scène protestante qui est ouvertement hérétique, la nouvelle messe peut être valide si elle est célébrée par un prêtre validement ordonné qui prononce sur le pain et le vin les paroles de la consécration avec l'intention de faire ce que fait l'Église, en notant que toutes ces conditions ne sont pas forcément réalisées. Mais cependant, comme cette nouvelle messe ne rappelle plus la doctrine catholique, elle finit par faire perdre la foi à ceux qui la célèbrent et à ceux qui y assistent et qui finissent par avoir une conception protestante de la messe. Donnons maintenant quelques conséquences pratiques de la doctrine de l'Église. Aller à la messe, c'est se rendre au calvaire pour y recueillir les fruits de la rédemption. Communier, c'est recevoir une victime qui vient de s'immoler et qui se fait manger par nous pour nous entraîner dans son sacrifice, afin que nous puissions unir les croix de nos vies à son sacrifice du calvaire et les rendre ainsi efficaces pour le rachat de nos péchés et le rachat des péchés de nos frères et obtenir ainsi leur salut. Et nous sommes ici au cœur de la vie chrétienne. En quoi consiste la vie chrétienne ? À suivre notre Seigneur Jésus-Christ ? Eh bien, notre Seigneur nous le dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prendre sa croix, c'est se renoncer tous les jours pour rester fidèle au commandement de Dieu. Et c'est bien un renoncement dans le monde actuel que de rester fidèle au commandement de Dieu. Prendre sa croix, c'est accepter les épreuves de la vie, quelles qu'elles soient, pour la purification de notre âme et pour le rachat de nos péchés. Et c'est là que la messe et la communion seront notre force. Tout le monde a des difficultés, disait Mgr Lefebvre, épreuves personnelles, épreuves de santé. Eh bien, continuait-il, nous ne serions pas capables de comprendre ces épreuves si nous ne pensions pas à la sainte victime qui s'offre sur l'autel. Si vous êtes cloué sur un lit d'hôpital et que vous souffrez pendant des mois, vous savez que si vous offrez vos souffrances avec celles de notre Seigneur, vous partagez le calvaire avec lui, et par le fait même, vous répandez tous les mérites que vous gagnez sur le monde et sur vous-même. Si vous souffrez dans votre famille, si vous avez des difficultés, que vous traversez des épreuves dures et difficiles, songez à unir vos souffrances à celles de notre Seigneur Jésus-Christ sur le calvaire. Allez donc au sacrifice de la messe. Vous y trouverez le soutien de votre vie, le secours qui vous donnera la force de supporter votre épreuve. Ah oui, la Sainte Messe et la Communion sont bien au cœur de notre vie. Et ils l'avaient bien compris, nos ancêtres, dans les temps de foi, qui construisaient leur ville autour des cathédrales, qui bâtissaient leur village autour de l'Église, c'est-à-dire autour de l'autel du sacrifice. Et c'est cela qui a fait la civilisation chrétienne, la civilisation catholique. C'est cette compréhension de la messe aussi qui est la source des vocations, c'est-à-dire qui permet à notre Seigneur d'appeler des âmes à monter avec lui sur la croix pour sauver le monde avec lui, dans la vie religieuse ou dans la vie sacerdotale. Lorsque la messe apparaît clairement comme le renouvellement du sacrifice de notre Seigneur, comme c'est le cas dans la messe traditionnelle, alors des âmes généreuses se lèvent pour offrir toute leur vie à notre Seigneur dans l'état religieux pour sauver des âmes avec lui. Des jeunes gens se dirigent vers le sacerdoce pour perpétuer le sacrifice de notre Seigneur et répandre les grâces de la rédemption sur le monde afin de le sauver. Mais si la messe n'est plus qu'un repas, un partage, comme le laissent entendre les textes de la nouvelle messe, alors, au contraire, l'esprit chrétien se perd, les églises se vident, les vocations disparaissent, c'est ce que nous voyons depuis le Concile. Et voilà les fruits empoisonnés d'une messe faite avec des protestants, une messe sans la croix, une messe que Mgr Lefebvre appelait une messe bâtarde qui détruit l'Église. Mais attention à nous aussi, aller à la messe traditionnelle ne donne pas automatiquement une garantie de vraie vie chrétienne et de persévérance. Si nous y assistons par pure obligation, comme de l'extérieur, sans nous unir au sacrifice de notre Seigneur, nous ne récolterons pas beaucoup de fruits de notre pratique dans la tradition. Examinons-nous. Alors, en commémorant ce soir l'institution de la Sainte Eucharistie, demandons la grâce à chaque messe et à la communion d'offrir notre vie en union avec notre Seigneur. Et en commémorant l'institution du sacerdoce, prions spécialement pour les vocations de prêtres. Nos sociétés sont en train de se décomposer parce qu'il n'y a plus assez de prêtres pour répandre les grâces de la rédemption sur le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.